Donc, ça, c'est le texte que ce matin, on va regarder ensemble. Et je crois vraiment beaucoup dedans à voir, à prendre pour nos vies aussi. Donc, on va directement commencer au premier verset. C'est le contexte, c'est l'évangile de Luc et les versets avant, il fait une petite description de pourquoi il a écrit cette longue lettre, cet évangile. Il adresse à Théophile et puis il part directement avec ce premier verse. Puis il dit, il nous amène un peu au contexte parce que ça a été écrit quand même quelques années après de ces événements. Ça, pour le mettre dans un contexte de temps, c'était même avant de la naissance de Jésus. C'était peut-être à 1 an avant que Jésus a été né. Donc, il parle de ces deux personnes, de Zacharie, de Élisabeth. Il dit, c'est au temps d'Hérode, roi de Judée. Et puis, il y a eu un sacrificateur de nom Zacharie, de la classe d'Abia. Il met directement la famille, la descendance, c'était une personne avec sa femme Élisabeth, les deux, ils étaient des Lévites, donc une tribu spéciale dans Israël, et puis ils étaient des descendants directs de Aaron. Donc le sacrificateur, c'était, on pourrait dire, un métier très spécial que Dieu avait créé parmi Moïse et Aaron pour être dans le temple, pour faire des sacrifices, pour vraiment être dans la présence de Dieu, pour apporter des sacrifices à Dieu. C'est un métier très privilégié, c'était pas pour tout le monde, c'était que pour ses descendants d'Aaron. Puis, Zacharie a sûrement été une personne choisie, spéciale dans son monde, dans son temps. Puis, ça c'est le verset très très clair, je dirais. Tous deux étaient juste devant Dieu, et suivantes d'une manière irréprochable. Ce mot, mais j'aime beaucoup. C'est un mot très, très spécial. Irréprochable. Donc, il y avait personne qui pouvait dire quelque chose contre eux. Parce qu'ils suivaient les commandements et les ordonnances du Seigneur. Et je m'imagine Zacharie, quand il est au temps de temple, il fait son service là. Il est une personne très, très connue. Il y a tout le monde, sûrement, à Jérusalem qui le connaissent comme une personne importante, mais son ministère va ensemble avec sa conduite. Souvent, on trouve des personnes de responsabilité, même pas des chrétiens, mais des politiciens, par exemple, des personnes dans des hauts postes, dans des métiers très importants, mais leur conduite ne va pas ensemble avec leurs appels ou leur ministère. Mais ici, c'était pas le cas. Le ministère, l'appel de Zacharie allait ensemble avec sa conduite. Ça, c'est un point très, très important à porter aussi pour nous. Donc, ils étaient des vrais Israélites, des vraies personnes qui suivaient la loi. On pourrait dire, dans un certain moyen, ils étaient après le cœur de Dieu. C'est ça que Dieu, les ordonnances et les commandements de Dieu qu'il avait établis, eux, ils les suivaient. Et ici, la parole de Dieu nous apporte, on pourrait dire, un problème. Mais ils n'avaient pas d'enfants parce que Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'une et l'autre d'un âge avancé. Ça, c'est un peu l'anomalie. Avant, on a d'où ils viennent, ce qu'ils font, leur conduite irréprochable. Mais là, on a un peu le problème. Ils n'avaient pas d'enfants. Sûrement, vous savez que dans ces temps, de pas avoir d'enfants, c'était un grand problème, c'était un grand défi. Il n'y avait pas d'héritage, pas d'héritier. Et puis, il y avait la ligne de la famille qui ne continuait pas. Ça, c'était aussi, comme on a entendu, c'était presque une disgrâce de pas avoir d'enfants. Et puis, je suis sûr qu'ils ont prié pour ça. Je sais pas combien de fois. Je suis sûr qu'ils portaient ce poids dans leur cœur devant Dieu, sûrement chaque jour. Mais il n'y a rien qui s'est passé. Je ne sais pas combien des années exactement ils avaient. On entend qu'ils étaient de âge déjà avancé, mais on ne sait pas exactement. Je crois peut-être 50 ans, ils avaient sûrement. Et ils étaient encore là. Oui, dans ces temps, on ne vivait pas tout ce temps qu'aujourd'hui. Je crois 80 ans, c'était déjà trop beaucoup. Je crois 70 ans, plus ou moins. Donc, j'imagine ils avaient plus ou moins 50 ans. Puis, Il savait que le temps pour avoir des enfants était presque passé. Donc peut-être ils ont encore cet espoir dans leur cœur de avoir un héritier un jour, mais les pensées humaines étaient aussi là. Donc il y avait la foi d'un côté, mais les pensées humaines de l'autre côté, là, ce qu'on appelle la réalité, je crois qu'ils étaient un peu entre ces deux choses. Ça, c'est un peu le contexte qui Luc nous propose, nous met un peu de cette personne, et maintenant, on passe directement comme dans une histoire. Donc, on a Zacharie dans ses fonctions devant Dieu, c'était son tour, là, le verset 8, il fut désigné par le sort, puis ça, c'était un système qui Moïse avait établi, et Aaron aussi, ils avaient établi ce système des Lévites, et plus en avant, il y avait le roi David qui a un peu fait une réforme des Lévites. Il a réformé ce système et c'est le roi David qui a mis ce système de sort. Comme ça, tout le service des Lévites se passe un peu très ordonné. Donc, c'était le tour de Zacharie. Ça, j'ai pas exactement trouvé la rotation, on pourrait dire, cette rotation, combien de temps l'était, mais sûrement, Zacharie, quelques mois, il n'allait pas vraiment au temple. Mais là, c'est exactement son tour. Donc, il part, il va au temple et il va offrir au verset 9, le parfum. Ça, c'est aussi un sacrifice qui est fait chaque jour au temple. C'est d'offrir de l'incense, le parfum bon, le matin, et il y a une prière qui va avec. Donc, il y a des personnes là, il y a toute la multitude qui vont au temple, je crois les personnes qui habitent à Jérusalem, pour voir ce moment-là, ce sacrifice de parfum et de prier. Ça, c'est une bonne façon de commencer une matinée. Puis Zacharie, sûrement, il n'était pas seulement un lévite de catégorie bas, mais je suis sûr il était un dirigeant, un chef, parce que lui, il avait l'honneur d'aller dans le temple et de faire ce sacrifice. Ça, c'était une chose que pas tout le monde, même dans les Lévites, les descendants d'Aaron, pas tout le monde osait faire. Un homme privilégié, exemplaire et fidèle à Dieu. Ça, c'est un peu les points que me sont venus. Donc, jusqu'à ici, il y a tout qui se passe presque normalement. On peut dire une famille exemplaire, mais pas d'enfants. En Israël, irréprochable, il a on pourrait dire, un bon métier, une bonne position d'honneur, de privilège. Et ici, qui va se passer maintenant la chose inexpectée, cette rencontre que je veux lui parler aujourd'hui. Dans le verset 11, il est dans le temple, il est en train de faire le sacrifice. Alors lui apparut un ange du Seigneur, debout à droite de l'autel des parfums. Donc, des rencontres avec des anges dans l'Ancien Testament, on a quelques. Et puis là, on voit la réaction de Zacharie. Il fut troublé en le voyant et la crainte s'empara de lui. Ça, c'est une chose qu'on trouve souvent dans l'Ancien Testament. Quand des personnes ont des rencontres avec des anges, ils ont eu grande peur. Parce que on avait cette pensée que quand je vais voir un ange, je vais mourir. J'arrive pas à voir une chose si sainte. Et moi, comme pêcheur, j'arrive pas à rencontrer. Si je vais rencontrer, je dois mourir. Donc, il a une crainte très grande, mais la réaction que l'ange a, c'est comme presque chaque fois quand il y a des rencontres, l'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Waouh! Quelle façon de commencer la journée. Une telle annonce dans, je sais pas, quelques secondes, il y a cet ange qui arrive, lui il a très peur, et lui donne ce message, votre prière a été exaucée. Vous aurez à avoir un fils. Et il va lui-même dire le nom qu'il doit lui mettre, Jean. Waouh. Puis là, on va voir maintenant ces prochains versets, toute une histoire très intéressante. Parce que l'annonce de l'ange ne finit pas ici. Ça, c'est juste le début. Et maintenant, l'ange, il va lui annoncer peu à peu des choses par rapport à ce fils. Puis on va voir la réaction de Jean. Mais d'abord, je veux m'imaginer combien d'années ces deux ont prié. Je peux pas savoir. Peut-être 20 ou 30 années de prière. D'abord, c'était pas écrit qu'ils ont prié, mais l'ange lui dit, votre prière ont été exaucées. Après peut-être 30 ans de prière, finalement une réponse. Pourquoi pas avant? Pourquoi c'était après 30 ans ou 40, je ne sais pas exactement. Pourquoi est-ce qu'ils ont dû attendre tout ce temps? Ben, on ne sait pas exactement, mais une chose qu'on sait, que le plan et les temps de Dieu sont parfaits. Il n'y a pas d'explication, mais on sait que si on est dans les temps, dans le plan de Dieu, c'est parfait. C'est souvent pas notre temps, mais c'est le temps de Dieu. Et lui, il sait quand. Donc, exactement dans le moment où Zacharie était dans le temple, Dieu a décidé, maintenant, c'est le bon moment de lui dire. Pourquoi il lui a pas dit dans sa maison? Je sais pas exactement, mais je m'imagine que, quand même, le temple était encore dans l'Ancien Testament, était le point de rencontre de Dieu avec les humains. Donc, Dieu a choisi cet endroit-là. Une chose aussi spéciale de ce passage, c'est écrit dans le Nouveau Testament, mais c'est quand même encore une histoire, on pourrait dire, de l'Ancien Testament, parce que à ce point-là, Jésus n'était pas encore né. Maintenant, on va voir un peu ça que l'ange va encore dire. C'est très intéressant. Donc, la grande annonce, il l'a fait, puis maintenant, il arrive au détail. Il sera pourtant un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Le désir de leur cœur, le désir du cœur de Zacharie, de Élisabeth, a trouvé une réponse ici. Il leur dit, pour vous, ça va être une joie, une allégresse. Mais ça s'arrête pas là. Il dit aussi, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Là, voudrais faire un point en regardant nos désirs personnels. Souvent, on a des désirs personnels. On a des idées, peut-être, on veut. J'entends beaucoup de personnes dans mon église qui viennent d'arriver en Suisse, des Italiens, ils veulent un bon travail, une stabilité financière. Sûrement, ça, c'est très important. Si on n'a pas de stabilité financière, la vie en Suisse, c'est pas très facile. Peut-être d'autres personnes veulent une maison, une voiture, un mari, une épouse. Ou certaines personnes aspirent peut-être une certaine position, même dans une église, dans le travail, de faire une carrière. Il y a beaucoup de désirs que les hommes, les personnes ont. Mais souvent, ces désirs sont un peu des désirs personnels, sont des désirs qui sont centrés à nous, un peu égocentriques. Sont pour nous, je veux ça, je voudrais ça pour être mieux, pour je sais pas quoi, pour être plus confortable. Le désir de Zacharie et d'Élisabeth était d'avoir des enfants. On peut dire que c'est un désir normal, c'est pas un désir méchant, mauvais, c'est juste. C'est Dieu qui a même dit de désirer ça. Mais eux, ils pensaient, on veut avoir des enfants pour être bien, pour avoir un héritier. Mais là, on voit que Dieu se limitait pas seulement à eux. Dieu, dans son plan, il voyait plus que seulement cette couple, mais il dit, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Donc la naissance de cet enfant qui est leur enfant va porter de joie, pas seulement à eux, mais aussi à d'autres personnes au dehors de leur famille, de leur couple. Mais l'ange continue encore, ça ne se finit pas ici. Il continue avec l'aspiration ou la vision que Dieu a pour cet enfant. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Donc il sera dédié au Seigneur dès sa naissance. J'ai trouvé très intéressant que c'est écrit que dans le ventre de sa mère, il va déjà être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est, on trouve pas souvent. C'est vraiment un enfant dédié au Seigneur, même avant de la naissance, qui a un grand ministère. Puis maintenant, on va voir qu'est-ce que Dieu avait préparé pour cet enfant. Il remènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Puis il marchera devant lui avec l'esprit, la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ça, c'était le plan de Dieu. Pas seulement un enfant pour cette couple, mais beaucoup plus grand, plus large que Zacharie et Élisabeth n'auraient jamais pu imaginer, même rêver. Donc, on voit cet enfant Jean, il va porter quelque chose pour, on pourrait dire, trois catégories. On a la joie, il va apporter la joie à Zacharie et à Élisabeth. Il va être un objet de bénédiction, il va rapprocher envers eux et Dieu les autres personnes autour. Il va être de la joie pour les personnes autour. Mais ça finit pas là. Parce que aussi pour Israël, ça c'est le même point qu'on peut prendre avec les personnes, aussi pour Israël, il va les rapprocher à Dieu. Donc Dieu avait un grand plan. Mais aussi, le dernier point que Jean va apporter, il va apporter de la gloire à Dieu. On oublie souvent ce point-là. On pense, oui, c'est bien, si une chose est bien pour moi, peut-être c'est aussi bien pour mon voisin, mais peut-être Dieu veut aussi qu'un peu de gloire peut aller à lui. On dit souvent, oui, gloire à Dieu, mais au final, toutes choses doivent apporter de la gloire à Dieu. Je crois que si on est des serviteurs, si on est des chrétiens, des personnes qui aiment Dieu, notre vie, chaque respire de nous devrait apporter de la gloire à Dieu. Et on trouve ça aussi dans beaucoup de fois dans le Nouveau Testament où Paul écrit que notre but, notre destin, c'est d'apporter de la gloire à Dieu. Et chaque chose dans l'univers, dans la nature, apporte de la gloire à Dieu. Donc ça, c'était le plan de Dieu pour cet enfant. D'apporter de la joie, d'approcher les gens, mais aussi d'apporter une grande gloire, une victoire à Dieu. Un enfant, toutes ces choses. Souvent, les choses sont un peu plus grandes, un peu plus larges que notre vision. La prière de cette couple, on pourrait dire ce couple fiel, ils ont demandé ça à Dieu, puis Dieu l'a donné. Jean 14:14 dit, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » C'est un très bel verse, et je crois que cette couple a demandé, et Dieu a donné dans une manière beaucoup plus grande où ils auraient pu jamais imaginer. Puis maintenant, l'ange, il a fini. Il a fini, on pourrait dire, de dire ça qu'il voulait dire. Et maintenant, on a la réponse de Zacharie. Puis là, ça me fait penser un peu. Donc, Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaître-je cela? Car je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » Aïe, quelle réponse! Après toute cette gloire, cette annonce incroyable, il pose encore des questions, mais je sais pas exactement comment peut ça se passer. J'étais pas sûr qu'est-ce qu'il voulait dire exactement. J'ai regardé, même dans des autres traductions, même dans le texte original, c'est un peu une demande, une question. Donc, il n'est pas sûr vraiment que ça peut se passer. Après, il va même dire, ma femme est d'un âge avancé, on est vieux. Humainement, c'est pas possible, ça va pas. Il a des doutes. Après tout ça que Dieu a dit, il va être une bénédiction pour Israël. Et comme ça, Zacharie est encore lié, il regarde encore à ses problèmes personnels, on pourrait dire. Il est encore seulement en regardant sur lui. Il ne croit pas que Dieu, s'il a promis une telle chose, il va la faire. Il est encore bloqué dans ces choses. Donc on a un ange qui vient dans le temple, une réponse de prière, toutes ces grandes promesses, et quand même, Zacharie, il est encore en doute. Je me suis demandé un peu à ce point, si on regarde la vie de Zacharie, il était irréprochable, il était dans le temple, il était une personne d'honneur, un serviteur du temple, un lévite, il était un fils d'Aaron, il était fidèle à Dieu. Et pourquoi il n'a pas eu la foi de croire cette chose? Je me suis demandé ça, pourquoi? Ça m'a porté de penser aussi au point que la foi et la fidélité sont deux choses différentes. Fidélité, c'est une chose, une vertu, je dirais, que chaque chrétien doit avoir. Sans fidélité, la vie de chrétien, je dirais, c'est presque impossible de notre partie, parce qu'il y a des moments où on ne voit pas ça qu'on voudrait. Il y a des moments où c'est inconfortable. Si on ne peut pas rester fidèle à Dieu dans ces moments-là, c'est très difficile. Mais Zacharie et Élisabeth, ils étaient des personnes fidèles, des années et des années de service. Mais quand même, ils n'avaient pas de foi. Donc, ça m'a vraiment porté à penser que la fidélité et la foi sont deux choses qui ne vont pas toujours ensemble. Je crois, comme chrétien, jeune chrétien, souvent, j'étais très inspiré par des grands prédicateurs, par des grands personnages du monde chrétien qu'on a, des personnes qui avaient des années et des années on pourrait dire, de carrière dans le ministère, des prédicateurs, des missionnaires. Je suis encore toujours inspiré de ces personnes, mais une fois, ça m'a vraiment touché. Il y avait un prédicateur qui est venu chez nous à l'église, il avait 75 ans, et il avait parlé aussi de lui, de ses problèmes des fois, de croire, d'avoir une foi pour les grandes choses, pas seulement une foi quotidienne, mais foi pour ça que Dieu veut faire. Ça m'avait touché parce que je pense une personne de telle expérience, de tel âge, c'est impossible qu'il ait encore des problèmes avec ces choses-là. C'est impossible qu'il a des problèmes à croire. Mais j'ai dû noter que la fidélité, c'est ça qui nous fait continuer. Mais des fois, on peut être fiel, mais on peut manquer de foi, comme Zacharie dans cet endroit ici. Donc, il s'était habitué à cette condition, je pense. Il s'était tellement habitué à ne pas avoir d'enfants, à ne pas avoir d'héritier, qu'ils étaient, on dirait, il a accepté cette situation. Il a dit, ouais, je prie quand même encore pour le faire, je prie, mais je ne crois plus vraiment que ça peut se passer maintenant. Je suis déjà très vieux, ma femme aussi. Puis ça m'a un peu rappelé à une autre histoire dans l'Ancien Testament qu'on a, Abraham et Sarah. La même situation, mais ils étaient encore plus âgés. La Bible nous dit qu'Abraham avait 100 ans et puis Sarah avait 90 ans. Donc, ça, c'est assez âgé, je dirais. Et puis, il y a Dieu qui vient, Dieu qui arrive et qui dit, vous allez avoir un enfant. Et Abraham s'écrit, il tombe sur ses genoux, il se met à rire. Parce qu'il dit, mais c'est pas possible, Dieu. Il ne croit même pas. Sarah, la même chose, quand il y a les trois hommes qui arrivent, qui dit, dans un an, on va retourner, tu vas avoir un enfant. Sarah, la même chose, elle s'est mise à rire dans l'attente. C'est pas possible. Parce qu'ils étaient si habitués à ça. Mais Dieu avait promis qu'ils vont avoir un enfant. Et si Dieu l'a promis, c'est une promesse. Et Dieu, il est fiel à ses promesses. Ça, on sait. Mais beaucoup de fois, on a un peu notre passé humain. On dit oui, c'est pas possible. 90 ans, 100 ans, c'est pas possible. Le docteur, il m'a dit, c'est pas possible. La science, elle a dit, c'est pas possible. Mais Dieu a dit autre chose. Comme on le met ensemble. Et souvent, aussi dans l'histoire d'Abraham, on trouve que il a dit, ok, c'est pas possible avec ma femme Sarah, peut-être il y a une autre solution. Donc, il a trouvé un peu sa solution. Il a dit, ah, il y a la serveuse de ma femme. Elle est plus jeune, sûrement. Elle peut encore avoir des enfants. Donc, on peut faire cette solution ici. C'est quand même un enfant. Dieu m'a promis un enfant. Donc, je vais avoir un enfant comme ça. Donc, il y avait ces coutumes-là. Vous savez très bien que si l'enfant était né sur la femme, donc ça comptait comme l'enfant de elle. Donc il a pris cette version, on pourrait dire la version humaine, et il a eu un enfant. Mais Dieu a dit non, c'est pas ça que je voulais. J'avais un autre plan, mais toi t'as fait ton plan, ça, tu laisses tomber, mais moi j'avais un autre plan. Puis Dieu a dit d'éloigner Ismaël après de Isaac, on sait très bien. Donc la solution humaine au problème. Mais il y avait la réponse de Dieu. Les deux, Zacharie et Abraham, ils ont peut-être pas eu la patience d'attendre au bon moment, au temps de Dieu. Et souvent, je crois que c'est la même chose aussi pour nous. Hein. Pour moi, personnellement, souvent, j'ai pas la patience d'attendre au bon moment, au moment de Dieu, au temps de Dieu. Et j'ai aussi noté, un peu, c'est dans l'ADN suisse, de tout de suite, exactement, mais aussi, quand il y a un problème, on veut une solution tout de suite. Donc j'ai noté, j'ai fait l'armée en Suisse, donc j'ai noté qu'en Suisse, il y a vraiment beaucoup de bunkers. Très, très, un grand nombre dans toutes les montagnes, il y a des bunkers, des refuges dedans. Ça, c'est un peu la réponse dans la Deuxième Guerre mondiale, dans la guerre froide, de se préparer à une menace, à une guerre atomique où chaque situation, on veut être prêt en Suisse à chaque problème, à chaque situation. On trouve une solution. Après, dans les années 90, il y a la guerre froide qui s'est finie. Donc, on a vendu beaucoup de ces refuges, de ces bunkers. L'armée, elle a vendu beaucoup. Puis maintenant, dès 3 ans, la situation a changé de nouveau en Europe. Donc, ils ont fait un pas en arrière. Ils sont en train de les reacheter, de reprendre ces bunkers parce qu'ils ont dû changer de stratégie. Donc, ça m'a un peu porté de penser dans notre culture en Suisse ici, c'est très normal. C'est vraiment dans la culture d'essayer de se préparer à chaque menace, mais souvent on laisse Dieu de côté. Souvent on a oublié que quand il y a vraiment une grande guerre, le seul qui peut nous garder, c'est Dieu et pas notre refuge, notre bunker. Donc Abraham a un peu réagi dans le même moyen. Il a cherché sa solution et puis c'était pas la bonne solution parce que vous savez très bien que Ismaël après il a porté un peu de problèmes, de troubles à Isaac. Et encore aujourd'hui, les descendants de Ismaël, c'est les Arabes. Ça, c'est la Bible qui dit aussi l'histoire. Puis on sait très bien que des Arabes, il y a l'islam qui est venu. Donc on pourrait spéculer si Abraham aurait un peu de patience, il n'aurait pas fait sa solution. Aujourd'hui, le monde est un peu différent. C'est une spéculation, mais je crois, si on prend nos mesures, des fois, c'est pas trop bien. Dans les années peut-être même. Donc, on a ici la réponse de Zacharie, le manque de foi, on pourrait dire. Et puis, la réponse de l'ange est aussi très intéressante. Il se fâche presque, je pense. Moi, je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, t'annoncer cette bonne nouvelle. Je m'imagine Gabriel, il est devant Dieu jour et nuit. Depuis qu'il a été créé, depuis des milliers d'années, il est devant Dieu, il le sert, il l'adore. Puis il a vu cet oracle de Jean qui doit être né. Je ne sais pas depuis combien des milliers d'années, il savait déjà en avance parce que Dieu n'a pas décidé ça un matin, mais il avait déjà préparé avant de la fondation de la terre. Puis enfin, le moment est arrivé. Gabriel, il va pour apporter cette bonne nouvelle. Il est tout joyeux, je suis sûr, et il a la réaction de Zacharie. Je m'imagine, il s'est un peu fâché. Donc, il lui répond le verset 20, « Voici, tu seras muet, et tu ne pourrais pas parler jusqu'au jour où cela se produira. » Ça, c'est la réaction de Gabriel, mais je suis sûr, Dieu le savait déjà. Il dit, « Maintenant, tu crois pas, ok, tu vas pas parler jusqu'à tu vas voir ça que moi je vais faire. Maintenant, tu peux réfléchir en silence à ça que je vais faire. » Puis, il sort, oui, fini. Dehors, il y a le peuple, il l'attend. Il comprend pas qu'est-ce qui est en train de se passer parce que ça prend plus de temps que normalement. Puis, il sort de là, il arrive pas à parler, puis il comprend qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Une vision. Puis, il commence à gesticuler. Il doit écrire des choses, je crois, sur un, je sais pas, avec de l'encre ou comment, pour communiquer avec les autres. Puis, quand ses jours de service ont fini, ont terminé, il est retourné dans sa maison. Puis, ça qu'il apporte à la maison, j'ai pensé, qu'est-ce qu'il va apporter à la maison? Se rencontre, ça qu'il a entendu, puis il arrive même pas à dire à sa femme proprement. Mais je suis sûr que il a, d'un avis, je crois, il a eu sa leçon. Il n'a pas pu parler, je suis sûr, il a eu beaucoup de temps pour réfléchir, mais il a encore rien vu quand il est arrivé à la maison. Rien n'avait changé. Les choses étaient les mêmes, mais il a eu ce grand message. Comme il a réagi. Et dans Ésaïe 55, 8 à 9, il y a ce merveilleux message que Ésaïe donne, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies. Oracle de l'Éternel. En tant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de voix, de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Esaïe 55, 8 à 9. Je suis sûr, il a réfléchi à ça. Il a réfléchi à tous ces mots que Dieu avait, que l'ange avait dit. Et il a compris que ce désir qu'il avait d'avoir un enfant, Dieu l'avait répondu dans une manière beaucoup plus grande qu'il avait jamais pu imaginer. Puis, quelque temps après, sa femme Élisabeth devient sainte. Elle s'est cachée pendant 5 mois en disant, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi en tôt, au temps où il a décidé d'enlever ce qui était ma honte parmi les hommes. Donc, Élisabeth, elle a tout de suite noté qu'elle est restée enceinte et puis elle s'est cachée pendant 5 mois à la maison. J'ai pas bien compris pourquoi. Parce que c'est complètement caché, mais elle a vu que c'était vraiment une chose spéciale. Elle a vu que c'était Dieu qui a enlevé cette honte, cette année de prière. Dieu les a répondus enfin. Terminé, je voudrais encore regarder quel point on peut nous apprendre pour nos vies de cette histoire, de ce rencontre qui était très courte. Le rencontre, je crois, il a été 5 minutes, même pas. Mais ça a complètement changé, pas seulement la vie de cette couple, mais ça a changé toute l'histoire d'Israël, si on peut dire. On sait très bien que Jean le Baptiste, il est venu pour préparer ce peuple d'Israël pour le Messie qui a dû arriver. Il a vraiment rapproché le peuple à Dieu, comme l'ange avait dit. Donc, un point que je crois on peut prendre, que Dieu est en pleine conscience de nos désirs personnels. Souvent, on lui apporte notre désir, on lui apporte notre point de prière, on pourrait dire. On le fait peut-être pour quelques années, on pense il sait pas, ou il s'est oublié. Mais lui, il sait très bien, et au bon moment, il va répondre. Peut-être des fois, ça prend 20, 30, 40 ou plus d'années, mais je sais qu'il va répondre avec une réponse peut-être différente de ça qu'on priait ou on s'expectait. Un autre point qu'on peut apprendre aussi, c'est que les choses que Dieu nous donne sont pas seulement pour nous-mêmes. Élisabeth, Zacharie, ils priaient pour un enfant, ils pensaient seulement pour avoir un héritier, mais Dieu ne se limitait pas seulement à ça. Il a utilisé Jean le Baptiste comme une bénédiction pour tout le monde, on peut dire, pour toute l'humanité après, à cause de Jésus. Donc, il faut pas se limiter seulement à nous-mêmes, il faut penser un peu dans une manière comme Dieu pense, une manière grande et large. Puis la foi et la fidélité sont deux choses différentes. On peut être fiel, mais des fois on peut manquer de foi aussi. On peut manquer de ça que Dieu veut faire aussi dans notre vie et dans la vie des personnes autour de nous. Encore le dernier point, je pense, des fois, on peut recevoir un point, un mot, une pensée de la part de Dieu, et puis on veut le faire, on veut l'accomplir dans un moyen humain, avec notre moyen, avec notre force humaine, parce qu'on n'a pas la patience d'attendre au bon moment, au bon temps de Dieu, comme Abraham aussi, dans un moyen Zacharie a fait. Je crois que ça, c'est quelques points, mais je suis sûr, il y a encore beaucoup d'autres points dans ces 20 versets. Si je peux vous encourager d'encore les relire une fois à la maison, de peut-être méditer de ça que Dieu veut vous parler encore à travers de ces versets. À la fin, oui, Dieu, il va amener toujours la gloire pour lui-même. Ça, il a fait à travers de Zacharie, à travers d'Élisabeth, à travers de cet enfant qui a été né, qui a vraiment préparé le chemin pour le Messie. Amen. La gloire à Dieu. Oui, notre Père, vraiment merci pour tes plans, merci pour tes temps, merci pour comment toi, avant de la fondation du monde, t'avais décidé des choses, t'as un plan parfait pour nous, pour ce monde, pour l'humanité. Merci que tu n'es jamais en retard, Dieu. Tu es toujours en temps. Merci que On peut vraiment avoir la foi, on peut rentrer dans tes plans, on peut rentrer dans tes pensées pour nos vies, mais pas seulement pour nos vies, on peut rentrer dans les pensées pour le monde. Seigneur, qu'on peut avoir cette attitude de vraiment regarder, de penser qu'est-ce que c'est la volonté, qu'est-ce que c'est le plan de Dieu, pas seulement pour moi, mais pour le monde. Merci qu'on peut avoir aussi cette fidélité comme Zacharie et Élisabeth, qui pour des années, ils ont fait le service, ils étaient irréprochables. Mais Seigneur, on veut aussi avoir la foi. On ne veut pas manquer de foi pour ça que toi, tu veux faire dans notre vie, aussi dans les vies des personnes autour de nous. Amen.